Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Le tabagisme reste toujours la première cause de mortalité évitable, avec plus de 75 000 décès estimés en France en 2015. Et les cancers, la première cause de décès attribuable au tabagisme. La prévalence du tabagisme reste très élevée en France et la pandémie actuelle ne doit pas briser la dynamique de baisse historique du tabagisme en France, avec près de 2 millions de fumeurs quotidiens en moins entre 2014 et 2019. Une campagne d'information présentant le contexte sanitaire comme une opportunité a débuté la semaine dernière. En quoi la situation actuelle liée à la Covid-19 est-elle une opportunité pour arrêter de fumer? Nous en parlons ce matin avec nos invités au téléphone d'Africa Radio. Nous sommes en compagnie du professeur Daniel Thomas. Il est cardiologue, porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Merci beaucoup, professeur, de vous être rendu disponible pour les auditeurs d'Africa Radio ce matin. Nous rejoint en duplex d'Abidjan le docteur Anaud Marin, directeur de l'espace médical La Pyramide, et nous rejoindra dans quelques minutes Félicie David, elle est chargée de communication tabac à la direction de la santé de Santé publique France. Merci à vous, messieurs. Alors, on va commencer avec vous, professeur Daniel Thomas. Bonjour. Le président français Emmanuel Macron souhaite une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030 et promet d'agir sur le prix, l'extension des espaces sans tabac, les campagnes d'information sur la toxicité du tabac. Une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Est-ce possible et comment y arriver ?
Alors effectivement, quand on regarde le paysage actuel et quand on voit encore le grand nombre de fumeurs, on pense que c'est un peu utopique. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est d'ailleurs dans le programme de très nombreux pays maintenant dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cet objectif. D'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Finlande ont prévu elles-mêmes 2025. Donc on est encore plus proche. Et si on regarde la France, en fait, c'était déjà dans le programme de Marisol Touraine, qui avait dit que ça serait pour 2034. Ensuite, quand le programme national de lutte contre le tabac a été mis en place, c'était 2032. Et là, le président Macron a l'objectif que les jeunes qui auront 20 ans en 2030 seront moins de 5% fumeurs. Donc là, c'est un objectif qui est déjà dans certains pays, et en particulier aux États-Unis, je veux dire, quand on a la tranche d'âge des plus jeunes, des ados, on est dans ces pourcentages-là de fumeurs. Donc ça baisse, et je pense que c'est un objectif atteignable.
Professeur Daniel Thomas, donc, le président Macron cible en particulier les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les plus concernés par le tabagisme ?
Non, alors, curieusement, non. C'est aussi l'impression qu'on peut avoir quand on regarde, effectivement, beaucoup de jeunes fumer encore. En fait, c'est les tranches d'âge dans lesquelles le tabagisme a baissé le plus, ce sont les tranches d'âge les plus jeunes. C'est-à-dire, ce sont les gens, les hommes et les femmes de moins de 45 ans, de moins de 35 ans même, et même parmi les ados. D'ailleurs, quand on regarde la journée citoyenne, la journée qu'ont les jeunes à 17 ans, dans lesquelles sont faites des enquêtes régulièrement, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus que 25%, alors c'est encore énorme, 25% de fumeurs quotidiens, alors qu'ils étaient encore il y a 3 ans à 32%. Donc on a une baisse qui est plus marquée dans les tranches d'âge les plus jeunes. Par contre, et c'est ça en particularité effectivement en France, c'est qu'on a dans les tranches d'âge au-dessus de 45 ans, au-dessus de 55 ans, une évolution du tabagisme chez les femmes, parce que ce sont les femmes qui ont commencé à fumer il y a 40 ans, et qui arrivent maintenant dans ces tranches d'âge et qui ont malheureusement rencontré la même complication que les hommes. Donc non, je pense justement l'espoir, c'est de tarir effectivement l'entrée dans le tabagisme. Le tabagisme devient un petit peu ringard maintenant pour beaucoup d'ados. Donc c'est là où l'espoir d'arriver à cet objectif est réel. Mmh.
Félicie David, vous vouliez intervenir sur cette question ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Approchez-vous un peu du micro.
Bonjour, bonjour à tous. Juste pour compléter ce que dit le docteur Thomas, c'est qu'en effet, on a un âge d'entrée dans le tabagisme qui est de 14 ans aujourd'hui, et que c'est en effet important de tarir l'entrée dans le tabagisme, puisque plus on commence tôt, plus on a des difficultés à arrêter. Donc en fait, c'est vrai que si on ne commence pas à fumer, c'est vraiment la meilleure option.
Le tabagisme reste toujours la première cause de mortalité évitable avec plus de 75 000 décès estimés en France en 2015 et les cancers, la première cause de décès attribuable au tabagisme. Professeur Daniel Thomas et peut-être aussi hein, Félicie David, est-ce qu'on soigne mieux aujourd'hui les cancers liés au tabagisme et aussi les addictions hein, liées au tabac?
Alors, ce sont deux choses un petit peu différentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers, effectivement, restent la première cause de mortalité. Juste derrière, il y a les maladies cardiovasculaires, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, et puis les maladies pulmonaires, qui, en dehors du cancer, qui payent un lourd tribut également de décès liés au tabac. Alors, le cancer du poumon, qui est le leader dans les cancers liés au tabac, est malheureusement un cancer d'une grande gravité, avec des soins, bien sûr, qui progressent, et qui progressent d'autant plus que ces cancers ont été diagnostiqués tôt, ce qui n'est pas toujours le cas. La meilleure prévention, si je puis dire, au-delà des traitements du cancer, qui s'améliorent, certes, c'est de ne pas commencer à fumer. C'est déjà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la meilleure prévention, c'est d'être zéro tabac. Et puis, surtout, pour ceux qui sont fumeurs, de leur donner le message très fort d'arrêter le plus précocement possible parce que c'est la durée du tabagisme qui va être liée au risque de cancer. Et donc, c'est pas la quantité. Les petits fumeurs qui fument longtemps peuvent également faire des cancers. Et ça, les petits fumeurs ne le savent pas souvent et pensent qu'ils seront protégés par rapport à ce risque, alors que ce n'est pas vrai. Donc, ne pas commencer. Et si on a commencé, arrêter le plus tôt possible et se faire aider pour.
Le président Emmanuel Macron promet d'agir sur le prix, l'extension des espaces sans tabac, les campagnes d'information sur la toxicité du tabac. Alors le professeur Daniel Thomas, est-ce que vous vous réjouissez de ces annonces?
Oui, bien sûr. Je veux dire, ça, c'est dans la continuité de ce qui avait été débuté lors de la précédente présidence avec Marisol Touraine, avec le programme national de réduction du tabagisme, transformé en programme national de lutte contre le tabagisme. Et donc là, on marque encore, effectivement, par le biais de la Journée mondiale pour le cancer, quelque chose de très important. Hein, c'est que c'est effectivement la première cause de cancer, c'est la première cause de mortalité évitable, c'est la première cause de mortalité par cancer évitable, c'est la première cause de mortalité par maladie cardiovasculaire évitable. Donc c'est un sujet de santé publique majeur. Alors bien sûr, on ne peut que se réjouir de ces options. L'option prix, on en reparlera peut-être plus loin, mais je veux dire que c'est une option en termes de santé publique et celle qui a fait le plus de preuves de réduction de vente de tabac. L'extension dans les espaces sans tabac, c'est dénormaliser le tabac, c'est faire en sorte que l'on ne voit le moins possible de fumeurs, et ça c'est très important pour les jeunes. Il n'est pas l'exemple, effectivement, de gens qui fument autour d'eux, et donc cette extension, et puis pour protéger également de la fumée des fumeurs, les non-fumeurs, et les fumeurs eux-mêmes d'ailleurs, parce que le tabagisme passif est une réalité, il augmente également et le risque de cancer, et le risque de maladie cardiovasculaire. Alors, quant aux campagnes d'information, bien sûr, alors là, Santé publique France est vraiment en premier plan. Il y a un associé avec les ONG de lutte contre le tabac, dont en particulier l'Alliance contre le tabac, qui regroupe toutes les associations qui s'occupent de lutte contre le tabagisme, et en collaboration avec les sociétés savantes, et en particulier la Société francophone de tabacologie.
Aïssa, alors avant de parler de la campagne de Santé publique France, hein, un mot du docteur Anomarin depuis Abidjan. Docteur Anomarin, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour docteur, on estime aujourd'hui à 77 millions le nombre de fumeurs sur le continent africain et l'OMS prévoit que d'ici à 2025, ces chiffres augmenteront de près de 40% par rapport à 2010, ce soit la plus forte augmentation observée à l'échelle mondiale. Alors quelle est la situation dans votre pays, la Côte d'Ivoire ?
La situation, elle semble être la même. On constate une augmentation du nombre de fumeurs. Et lorsqu'on fait par tranche d'âge, c'est vraiment au niveau de l'âge des adolescents, de jeunes, et surtout en milieu scolaire. On a aussi, comme le disait, à partir de 14 ans, par effet d'apprentissage, effet de mode, mais au niveau de cette population-là, pour des problèmes d'autonomie financière, on a moindre que ceux un peu plus âgés.
Est-ce qu'on soigne aujourd'hui en Côte d'Ivoire un peu mieux les cancers liés au tabagisme, mais aussi les addictions hein, qui sont liées au tabac ?
Ah oui, nous avions des structures qui ont été mises en place pour la prise en charge des cancers de manière générale. Nous avions un centre de radiothérapie, nous avions beaucoup et a été fait ces deux dernières années, ce que nous n'avions pas auparavant. Nous avions des centres tels des structures, des ONG, la Croix-Bleue, certaines structures qui aident à la prise en charge du tabagisme chronique pour ceux qui aimeraient arrêter à fumer. Il y a des mesures d'accompagnement.
Félicie David, Santé publique France, l'assurance maladie et le ministère des Solidarités et de la Santé lancent une nouvelle campagne donc pour promouvoir Tabac Info Service et donner les clés pour réussir l'arrêt du tabac au temps de la Covid-19. Alors, quelles sont ces clés plus précisément ?
Alors, dans la démarche d'arrêt du tabac, en fait, la première chose à faire, c'est un peu son état des lieux par rapport au tabac, pour vraiment connaître les raisons, les causes, les situations dans lesquelles on fume. Des motivations qui peuvent vraiment aider durant l'année, durant l'arrêt, pardon, et choisir en fait la stratégie qui est adaptée à chacun. Alors c'est vrai que, ben, en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un moment particulier où on peut justement réfléchir on a du temps en fait et réfléchir à son comportement lié à la cigarette et puis aussi on change nos habitudes et donc pourquoi pas changer celles liées à la cigarette. On vit un moment difficile avec cette pandémie et donc du coup d'arrêter en fait c'est le bienfait pour sa santé et également de réussir quelque chose de positif pour soi, ça fait du bien en cette période. Et puis, une chose importante liée à la Covid-19, c'est vrai qu'arrêter de fumer, en fait, ça évite les formes graves de la maladie. Et puis, ça limite, en fait, les risques de propagation du virus. Parce que c'est vrai que quand on fume, ben, il y a beaucoup de gestes main-bouche, on défait le masque. C'est des gestes qui favorisent, en fait, la transmission du virus.
Alors, Félicie, David, vous le disiez, hein, la crise sanitaire peut être l'occasion d'une réflexion concernant le tabagisme, sa pratique, la pratique du tabagisme. Mais est-ce qu'il peut y avoir l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce que, comme on le sait que la crise sanitaire provoque aussi des angoisses, de l'anxiété, on peut fumer encore un peu plus, justement ?
Oui, alors on a une étude qui a été faite durant le premier confinement, qui donne en effet les résultats, c'est-à-dire que un cinquième des fumeurs ont en effet diminué leur consommation. Et à l'inverse, en fait, on a un quart des fumeurs qui a augmenté sa consommation. Et ils invoquent souvent des raisons liées au stress et à l'anxiété. Mais en fait, ça montre surtout, et c'est surtout les gros fumeurs qui ont fumé encore plus avec une moyenne de 5 cigarettes par jour. Mais ces chiffres, ils montrent surtout que ben, arrêter durant cette période, c'est possible. Parce que justement, ceux qui ont diminué leur consommation ont invoqué des motifs liés, des causes, en fait, des raisons de l'arrêt, pardon, liées à l'état de santé, liées aussi au fait qu'on reste plus à la maison, qu'on a moins de moments de convivialité. Et tout ça limite, en fait, les occasions de fumer.
Professeur Daniel Thomas, avez-vous, vous, constaté que la crise sanitaire a permis à des fumeurs d'arrêter le tabac ou l'inverse ?
Alors, Félicie David vient d'évoquer effectivement l'enquête qui avait été faite lors du premier confinement par Santé publique France et qui montre qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui augmentent, qui est à peu près un quart d'entre eux, et puis il y a ceux qui ont arrêté, c'est à peu près un cinquième d'entre eux qui ont baissé, pas arrêté, mais qui ont baissé leur consommation. Et donc ça, c'est un point effectivement positif. Et il y a une étude qui vient de paraître de Nouvelle-Zélande qui montre à peu près la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'il y en a à peu près 16%, qu'il y en a 16% qui ont diminué leur consommation d'environ 5 cigarettes, puis il y en a 34% qui ont augmenté leur consommation d'à peu près le même nombre de cigarettes. Donc, une espèce d'ambivalence qui fait que cette situation crée chez certains réflexes, effectivement, de décision à l'arrêt et de réussite, effectivement, à baisser leur consommation, qui est un cheminement vers l'arrêt. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, du fait du stress, de l'anxiété, du contexte, du confinement, effectivement, vont, au contraire, augmenter leur consommation. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement essayer d'agir sur les leviers qui vont permettre d'avoir la première réaction. Et donc, c'est un petit peu l'objectif, effectivement, de la communication qui peut être faite actuellement dans cette période un petit peu difficile pour tous les fumeurs.
Alors justement, professeur Daniel Thomas, comment agir sur ces leviers que vous venez d'évoquer ?
Eh bien, je pense qu'il faut communiquer. C'est ce que effectivement fait largement Santé publique France à travers des campagnes d'information en multimédia. Donc, en l'occurrence, ce matin, effectivement, on parle déjà de cela. Mais je pense qu'il faut effectivement multiplier des sollicitations. Et puis, il faut compter également sur les aides et les propositions d'aide qui peuvent être faites aux fumeurs. Hein, les fumeurs, souvent, sont tout seuls avec leurs problèmes. Pensent qu'ils sont pas bons, se culpabilisent, sont dans une situation d'isolement et qui est renforcée encore aussi par le confinement. Et donc, il faut leur apporter des solutions, et les solutions, c'est de leur proposer des aides. Et en l'occurrence, dans cette période de confinement, de difficulté à communiquer, à rencontrer les gens, et de leur proposer des choses en ligne. Et en l'occurrence, notamment Infoservice de Santé publique France, c'est un exemple particulièrement intéressant. Parce que les gens peuvent, de chez eux, contacter ce service et avoir une aide en ligne avec un tabacologue pour pouvoir les épauler, les aider, discuter. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas se sentir seul quand on prend ces décisions.
Docteur Anomarin, vous parliez tout à l'heure de l'augmentation du nombre de fumeurs sur le continent africain et en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous constatez que depuis plusieurs années, la cigarette est entrée dans les mœurs et la vie quotidienne des Ivoiriens ?
Oui, effectivement, la cigarette est fumée sous autre forme, quand soit en zone rurale ou en zone urbaine. En zone rurale, c'est le tabac, des plantes vertes séchées, réduites en poudre sous diverses formes. Et en zone urbaine, c'est vraiment la cigarette. Et puis, nous assistons maintenant à un nouveau phénomène qui est le mode oriental, la chicha et l'argile. Bon, vous m'excusez si j'ai escamoté ce mot. Mais on retrouve aussi le cigare chez les gens de conditions modestes. Donc on a des fumeurs occasionnels, on a des fumeurs chroniques. Et on sent qu'il y a une nouvelle augmentation qu'on doit prendre beaucoup en compte.
Docteur Anomarin, est-ce que vous pensez que la crise sanitaire actuelle, même si elle n'est pas vécue de la même manière en Côte d'Ivoire, peut être une opportunité pour arrêter de fumer ? Est-ce que vous l'avez constaté par exemple en Côte d'Ivoire ?
Alors moi, étant médecin du travail, particulièrement en entreprise, nous l'avons constaté et nous suscitons cet arrêt. À travers les campagnes de sensibilisation de mars, les campagnes de sensibilisation individuelles, nous jouons sur une notion qui est la peur de la mort par l'Africain. Donc lorsque nous mettons en évidence devant eux l'effet pathogène du coronavirus sur l'arbre bronchopulmonaire et la conséquence de la nicotine, on suscite chez eux la peur. Et effectivement, nous avions de très bons chiffres de réduction de la consommation de la cigarette dans le lieu du travail, même allant jusqu'à la réduction, la suppression des salles qui servaient à ceux qui fumaient de pouvoir se retirer pour pouvoir créer des bureaux vu les distanciations physiques qu'on est obligé de faire par respect des mesures barrières. Donc... De l'autre côté aussi, nous avions, comme le disaient mes confrères précédemment, chez certaines personnes qui étaient des non-fumeurs chroniques, l'anxiété, le stress, la perte de l'emploi, les conséquences économiques qui les amenaient à augmenter leur consommation de tabac.
Professeur Daniel Thomas, alors quels sont aujourd'hui les traitements pour arrêter de fumer ?
Alors, quand on parle de traitement, en fait, c'est une démarche un petit peu plus complexe que le traitement, par exemple, du cholestérol ou d'hypertension artérielle ou d'autres facteurs pour lesquels on a directement un objectif, effectivement, médicamenteux. C'est complexe parce que dans le tabagisme, la dépendance au tabac, qui est très forte, hein, qui est une drogue dure, est multiple. Il y a une dépendance physique qui, elle, effectivement, doit être traitée en tant que telle, c'est-à-dire avec des aides pouvoir lister et qui ont été validées. Et puis, il y a dépendance comportementale ou dépendance psychologique qui fait que ce fumeur, même si on lui donne ce traitement, mais sans l'accompagner autrement, va être en difficulté avec des traitements qui ne seront pas vraiment forcément très efficaces. Et c'est ce qui fait la difficulté, effectivement, de la prise en charge des fumeurs. Alors, je disais tout à l'heure, d'abord, il faut qu'il y ait une démarche. Donc, ces fumeurs, il faut qu'ils aient, alors bien sûr, la volonté, mais pas seulement la motivation, la volonté, mais il faut qu'ils aient la motivation pour arrêter de fumer. Cette motivation, elle leur est propre. Et c'est eux qui doivent la trouver. Et on peut les aider à trouver leur motivation, mais c'est eux, et c'est leur motivation qui va être le plus porteur. Après, dans les traitements, pour en parler, il y a des traitements qui ont été validés, qui sont la substitution nicotinique, hein, c'est-à-dire la nicotine délivrée par patch ou par forme d'absorption buccale, et qui sont démontrés comme efficaces. Il y a des médicaments effectivement qui se prennent effectivement par voie orale, dont la varenicline, le Champix, le bupropion, le Zyban, et ces deux médicaments sont également validés en termes d'efficacité pour arrêter de fumer. Or, ils sont assez peu utilisés. Même la substitution nicotinique, même si elle a progressé depuis qu'elle est remboursée, ça c'est très important de savoir pour les fumeurs, c'est que ce qu'ont vécu la substitution nicotinique non remboursée, maintenant elle est remboursée par l'assurance maladie, la varenicline également. Et donc, il faut utiliser ces traitements pour aider à gérer la dépendance physique. Et puis, il faut être accompagné le mieux possible pour gérer le reste. Et en l'occurrence, on fait leur preuve également les thérapies comportementales, mais qui sont effectivement utilisés par les médecins pour accompagner les fumeurs.
Docteur Anomarin, vous évoquiez précédemment des campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, mais est-ce que aussi l'autre difficulté, c'est qu'il y a une augmentation des campagnes de marketing massif des industries du tabac? Et est-ce que, selon vous, ces campagnes massives incitent de plus en plus de personnes à fumer dans votre pays?
Effectivement, je dirais oui. Nous sommes des pays en voie de développement. Donc, il y a des besoins, la paupérisation économique fait qu'il y a beaucoup plus de sensibilité. Alors, on a des lobbies anti-tabac, on a des lobbies pro-tabac. Et puis, ces industries, de manière subtile, c'est à travers des échantillons gratuits, à travers le rabais sur les prix, les bons de réduction pour les cigarettes, des cadeaux ou des remises d'autres produits pour l'achat de cigarettes, des vêtements, autres articles portant le nom ou le logo d'une marque de cigarettes, la promotion pour les cigarettes par courrier, tout y passe pour pouvoir avoir de l'impact sur la population, les amener à fumer.
Alors, Félicie, David, depuis 2007, il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés en France. Et depuis janvier 2016, il est interdit de fumer dans les espaces publics de jeux pour les enfants. Quel recul a-t-on aujourd'hui sur ces mesures?
Alors, sur ces mesures, on a même plus de recul, puisque le principe d'interdiction de fumer dans les lieux collectifs a été défini par la loi Evin, qui date de 1991. Donc c'est vrai que avant on pouvait fumer dans les avions, dans les trains, dans les bars, dans les restaurants. Aujourd'hui c'est plus le cas. Et donc du coup c'est une diminution des occasions de fumer, des espaces où on pouvait fumer avant. Et donc c'est beaucoup plus contraignant de fumer, c'est moins incitatif. Et on peut dire que ces dispositifs législatifs ont vraiment permis une diminution de l'exposition du tabagisme passif, parce que quand on fume, y a des effets à la fois sur soi, mais aussi sur l'entourage. Et puis également, c'est des dispositifs qui ont permis la dénormalisation du tabac dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la norme, elle n'est plus de fumer aujourd'hui, mais elle est de ne pas fumer.
Docteur, le professeur Daniel Thomas, est-ce que le prix des cigarettes est vraiment un frein à la consommation?
Alors oui, ça c'est parfaitement démontré. D'ailleurs, la France a été relativement leader dans ce domaine en termes de démonstration, quand on va en parler. Et citer un exemple pour 2003-2004, où Jacques Chirac avait déclaré la guerre au tabac, et à ce moment-là, il a augmenté de 40% le prix du paquet de cigarettes dans l'espace de un peu plus d'un an, et avec une diminution de 25% des ventes. Donc on a ça, tous les pays qui ont procédé de cette façon ont eu des résultats identiques, et on peut considérer que ce prix une incidence si l'augmentation du prix est forte et rapide. Hein, et donc, c'est ce qui a été fait donc, ces dernières années, et donc a certainement contribué à cette baisse du pourcentage de fumeurs en France sur les 3-4 dernières années, en dehors des autres mesures qui ont été prises également. Le prix est certainement un des éléments les plus importants en termes de santé publique, indépendamment, bien entendu, de l'aide aux fumeurs, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils aillent, pour les aider à arrêter de fumer.
Alors, Félicie,
réellement,
David...
réellement un bon outil.
Félicie David, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette campagne de Santé publique France, cette opportunité que présente la crise sanitaire pour arrêter de fumer? Alors, comment se déroule concrètement cette campagne?
Alors, cette campagne, elle a démarré le 5 février. Elle va durer jusqu'au 5 mars. Et en fait, pour inciter en fait, les fumeurs à arrêter de fumer, on fait la promotion des outils tabac infoservice. Donc, le site, le numéro d'appel pour avoir un tabacologue, le 3989, et également l'application qui permet, comme le disait tout à l'heure le docteur Thomas, de pouvoir entrer en démarche d'arrêt de chez soi et réussir son arrêt. Et puis également, on fait la promotion du recours à un professionnel de santé, que ce soit de pouvoir parler du tabac en fait avec son médecin traitant, avec le pharmacien, en fonction de la méthode d'arrêt, que ce soit les substituts nicotiniques ou une autre méthode, parce qu'on sait que accompagner et aider dans l'arrêt, en fait, on a par un professionnel de santé, on a 70% de chances de réussir, en plus de réussir son arrêt. Donc c'est vraiment des situations et des comportements importants à avoir. Et donc cette campagne, eh ben, elle est basée à la fois sur des témoignages pour montrer que c'est possible d'arrêter, des témoignages d'ex-fumeurs qui ont arrêté en cette période, et également des conseils pratiques de tabacologues dans l'arrêt. Et elle se déroule à la fois en radio, comme aujourd'hui, à la fois sur les réseaux sociaux, en presse, et sur le digital, avec des vidéos, des spots, vraiment quelque chose d'assez interactif.
Professeur Daniel Thomas, pour revenir sur les traitements, on parle de traitements de substitution à la nicotine. Est-ce que ces traitements sont efficaces, d'après vous?
Alors oui, ces traitements ont été démontrés comme efficaces. Alors, encore une fois... la dépendance physique donc, auquel va s'adresser la substitution par la nicotine avec ses patchs ou ses formes à absorption buccale, ce n'est qu'un des éléments. Donc, quand on parle d'efficacité, en fait, souvent, les fumeurs ont essayé la substitution nicotinique et disent moi, ça n'a pas marché, etc. Et en fait, si on regarde bien ton analyse qui s'est passée, il y a deux choses. La première chose, souvent, la dose n'a pas été adaptée aux besoins en nicotine du fumeur. Un gros fumeur n'aura pas besoin de la même dose et de même traitement, c'est logique. D'ailleurs, c'est vrai pour d'autres facteurs. Hein. Quand on traite une hypertension artérielle, on n'utilise pas les mêmes doses de médicaments chez un grand hypertendu que chez quelqu'un qui a une tension artérielle moyenne. Donc, il faut adapter la dose. Ça, c'est vraiment la base même du traitement du substitution. Et donc, associer et les patchs et les formes d'absorption buccale. Il faut associer les deux pour pouvoir faire cet ajustement le plus près possible des besoins du fumeur. Le deuxième défaut souvent qu'on trouve, c'est une durée insuffisamment longue de traitement de substitution, avec l'impression que c'est gagné et que j'arrête. Et en fait, il faut diminuer très progressivement, de façon à ce que les récepteurs à la nicotine au niveau cérébral se désensibilisent et que le fumeur, effectivement, ait de moins en moins de nicotine qui vienne stimuler ces récepteurs, mais de façon très progressive. Il n'y a pas de durée déterminée. La durée, ça dépend de chaque fumeur, et ça peut être effectivement plus ou moins de mois de substitution dégressive et arrêter vraiment quand la partie est gagnée et que la substitution est à un niveau minimal. Voilà, donc ça c'est vraiment bien démontré comme efficace, parallèlement aux deux autres traitements dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Docteur Anomarin, en Côte d'Ivoire, quels sont les traitements qui sont souvent utilisés par les médecins hein, pour inciter les personnes à arrêter de fumer ou pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer ou limiter leur consommation?
Voilà, alors c'est le même protocole qu'a décrit mes confrères précédemment, sauf que ici nous avions deux zones. Nous avons la zone rurale, nous avons la zone urbaine. Donc ici nous mettons sur les causes qui amènent les gens à fumer. En zone rurale, Je vous disais tantôt que là, le tabac, il est fumé, les feuilles fraîches récoltées qui sont mises à la commissure des lèvres comme tonifiant pour pouvoir exécuter des beaux travaux champêtres. Et ensuite, nous avions la poudre, nous avions les feuilles séchées. Donc, il faut amener ces gens-là à comprendre que c'est plutôt néfaste pour leur état de santé. C'est une approche de sensibilisation. En zone urbaine, généralement, c'est dû au stress, c'est les substitutifs de la cigarette. C'est pratiquement la même approche qu'en Europe.
Cette émission est à présent terminée. Merci de vous être rendu disponible. Merci pour la préparation de cette émission, Nadir Djennad. Plus d'infos sur le site de Santé Publique France, www.santépubliquefrance.fr, et sur le site de Tabac Info Service, www.tabac-info-service.fr. Merci à vous, Félicie David. Je rappelle que vous êtes chargée de communication à Tabac, à la direction de la prévention de Santé Publique France. Merci également au professeur Daniel Thomas de vous être rendu disponible. Je rappelle que vous êtes cardiologue, porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Et merci à vous également, docteur Anneau Marin, médecin et directeur de l'espace médical La Pyramide, basé à Abidjan. Merci à vous de nous avoir apporté vos éclairages très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. La suite avec Ambiance Africa juste après la pause. L'info également dans un instant. Nous prendrons la direction Dakar pour retrouver nos collègues de BBC Afrique. A tout de suite.